Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, et vous mes très chères sœurs et frères en philosophie, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette nouvelle émission, notre sœur Marie-Claude Savard, du Centre d'études Alain Kardec, Paix et Amour de Québec au Canada, poursuivra avec vous la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Cette lecture sera précédée par un communiqué de l'Union Spirit Belge. Notre lecture du jour se terminera par nos séquences habituelles. Si vous avez des activités dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas. Nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer. Par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. Mais dans l'immédiat, nous vous souhaitons une très bonne écoute. L'Union Spirit Belge a le plaisir de vous informer de son 12e symposium en collaboration avec la francophonie. Celui-ci aura lieu le week-end du samedi 4 et dimanche 5 juin 2011. Cette année, et pour la 5e fois consécutive, nous serons au château de Wégimont, à proximité de Liège, pour notre séminaire annuel. Pour rappel, le château de Wégimont est un magnifique domaine provincial. Il offre un cadre exceptionnel tant pour les enfants qui sont cordialement invités que pour les adultes. Entouré de verdure et à proximité d'un parc d'attractions familiales, il est accessible aux participants du séminaire. C'est ainsi que, comme à l'accoutumée, nous aurons la possibilité de loger sur place et de nous restaurer pour un prix plus que démocratique. Nous profiterons de cette belle opportunité pour vivre un moment privilégié de fraternité et d'échange tout en nous instruisant. Ce séminaire sera aussi l'occasion de nous retrouver pour la 4e fois en famille, parents, enfants, petits-enfants. Dans ce but, diverses activités seront organisées pour les enfants. Le thème central, le travail des responsables spirites et les 150 ans du livre des médiums. Cette année, nous ne pouvions pas ne pas parler du livre des médiums, qui fête son 150e anniversaire. Cet ouvrage de base de la philosophie spirite est un outil précieux pour celui qui débute dans le domaine médiuminique. Une partie de ce séminaire sera aussi consacrée au travail des responsables et futurs responsables spirites. Nous aborderons également le thème du suicide, et ceci dans le cadre de la campagne mise en place par le mouvement spirite francophone en 2011. Cette année, nous aurons également la présence des membres du Conseil Spirit International section Europe. Les places étant limitées, les inscriptions seront prises en considération en fonction des dates d'inscription et du paiement. Inscription en ligne via notre site www.spirit.be. D'avance, nous nous faisons un plaisir de vous rencontrer. Aujourd'hui, notre sœur Marie-Claude, que nous saluons au passage, nous invite à poursuivre la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Chapitre 10 « Bienheureux ceux qui sont miséricordieux »
Chapitre 10 « Bienheureux ceux qui sont miséricordieux » Pardonnez pour que Dieu vous pardonne. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 7. Si vous pardonnez aux hommes les fautes qu'ils font contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes lorsqu'ils vous ont offensé, votre Père ne vous pardonnera pas, point non plus vos péchés. Si votre frère a péché contre vous, allez lui représenter sa faute en particulier entre vous et lui. S'il vous écoute, vous aurez gagné votre frère. Alors, Pierre, s'approchant, lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « je ne vous dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Saint Matthieu, chapitre 18, versets 15, 21, 22. La miséricorde est le complément de la douceur, car celui qui n'est pas miséricordieux ne saurait être doux et pacifique. Elle consiste dans l'oubli et le pardon des offenses. La haine et la rancune dénotent une âme sans élévation ni grandeur. L'oubli des offenses est le propre de l'âme élevée qui est au-dessus des atteintes qu'on peut lui porter. L'une est toujours anxieuse, d'une susceptibilité ombrageuse et pleine de fiel. L'autre est calme, pleine de mansuétude et de charité. Malheur à celui qui dit « Je ne pardonnerai jamais, car s'il n'est pas condamné par les hommes, il le sera certainement par Dieu. » De quel droit réclamerait-il le pardon de ses propres fautes si lui-même ne pardonne pas celles des autres? Jésus nous enseigne que la miséricorde ne doit pas avoir de limite. Quand il dit de pardonner à son frère, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Mais il y a 2 manières bien différentes de pardonner. L'une grande, noble, vraiment généreuse, sans arrière-pensée, qui ménage avec délicatesse l'amour-propre et la susceptibilité de l'adversaire. Ce dernier eut-il même tous les torts. La seconde, par laquelle l'offensé ou celui qui croit l'être impose à l'autre des conditions humiliantes et fait sentir le poids d'un pardon qui irrite au lieu de calmer. S'il tend la main, ce n'est pas avec bienveillance, mais avec ostentation, afin de pouvoir dire à tout le monde « Voyez combien je suis généreux. Dans de telles circonstances, il est impossible que la réconciliation soit sincère de part et d'autre. » Non, ce n'est pas là de la générosité, c'est une manière de satisfaire l'orgueil. Dans toute contestation, celui qui se montre le plus conciliant, qui prouve le plus de désintéressement, de charité et de véritable grandeur d'âme, se conciliera toujours la sympathie des gens impartiaux. S'accorder avec ses adversaires. Accordez-vous au plus tôt avec votre adversaire pendant que vous êtes en chemin avec lui, de peur que votre adversaire ne vous livre au juge, et que le juge ne vous livre au ministre de la justice, et que vous ne soyez mis en prison. Je vous dis en vérité que vous ne sortirez point de là que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 25-26. Il y a dans la pratique du pardon, et dans celle du bien en général, plus qu'un effet moral, il y a aussi un effet matériel. La mort, on le sait, ne nous délivre pas de nos ennemis. Les esprits vindicatifs poursuivent souvent de leur haine, au-delà de la tombe, ceux contre lesquels ils ont conservé de la rancune. C'est pourquoi le proverbe qui dit « Morte la bête, mort le venin » est faux quand on l'applique à l'homme. L'esprit mauvais attend que celui à qui il veut du mal soit enchaîné à son corps et moins libre, pour le tourmenter plus facilement, l'atteindre dans ses intérêts ou dans ses affections les plus chères. Il faut voir dans ce fait la cause de la plupart des cas d'obsession. De ceux, surtout, qui présentent une certaine gravité, comme la subjugation et la possession. L'obsédé et le possédé sont donc presque toujours victimes d'une vengeance antérieure, à laquelle ils ont probablement donné lieu par leur conduite. Dieu le permet pour les punir du mal qu'ils ont fait eux-mêmes, ou, s'ils n'en ont pas fait, pour avoir manqué d'indulgence et de charité en ne pardonnant pas. Il importe donc, au point de vue de sa tranquillité future, de réparer au plus tôt les torts que l'on a eus envers son prochain, de pardonner à ses ennemis afin d'éteindre, avant de mourir, tout sujet de dissension, toute cause fondée d'animosité ultérieure. Par ce moyen, d'un ennemi acharné en ce monde, on peut se faire un ami dans l'autre. Tout au moins, on met le bon droit de son côté. Et Dieu ne laisse pas celui qui a pardonné en but à la vengeance. Quand Jésus recommande de s'arranger au plus tôt avec son adversaire, ce n'est pas seulement en vue d'apaiser les discordes pendant l'existence actuelle, mais d'éviter qu'elles ne se perpétuent dans les existences futures. Vous ne sortirez point de là, dit-il, que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole, c'est-à-dire satisfait complètement à la justice de Dieu. Le sacrifice le plus agréable à Dieu. Si donc, lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre don au pied de l'autel, et allez vous réconcilier auparavant avec votre frère, et puis vous reviendrez offrir votre don. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 23-24. Lorsque Jésus dit « Allez vous réconcilier avec votre frère avant de présenter votre offrande à l'autel », il enseigne que le sacrifice le plus agréable au Seigneur est celui de son propre ressentiment, qu'avant de se présenter à lui pour être pardonné, il faut avoir soi-même pardonné et que si l'on a un tort envers un de ses frères, il faut l'avoir réparé. Alors seulement l'offrande sera agréée parce qu'elle viendra d'un cœur pur de toute mauvaise pensée. Il matérialise ce précepte parce que les Juifs offraient des sacrifices matériels. Ils devaient conformer ces paroles à leur usage. Le chrétien n'offre pas de don matériel. Il a spiritualisé le sacrifice, mais le précepte n'en a que plus de force. Il offre son âme à Dieu, et cette âme doit être purifiée. En entrant dans le temple du Seigneur, il doit laisser en dehors tout sentiment de haine et d'animosité, toute mauvaise pensée contre son frère. Alors seulement sa prière sera portée par les anges aux pieds de l'Éternel. Voilà ce qu'enseigne Jésus par ses paroles. Laissez votre offrande au pied de l'autel et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère si vous voulez être agréable au Seigneur. La paille et la poutre dans l'œil. Pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de votre frère, vous qui ne voyez pas une poutre dans votre œil? Ou comment dites-vous à votre frère, « Laissez-moi tirer une paille de votre œil, vous qui avez une poutre dans la vôtre. » Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de votre œil, et alors vous verrez comment vous pourrez tirer la paille de l'œil de votre frère. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 3, 4 et 5. Un des travers de l'humanité, c'est de voir le mal d'autrui avant de voir celui qui est en nous. Pour se juger soi-même, il faudrait pouvoir se regarder dans un miroir, se transporter en quelque sorte en dehors de soi, et se considérer comme une autre personne en se demandant « Que penserais-je si je voyais quelqu'un faire ce que je fais ?» C'est incontestablement l'orgueil qui porte l'homme à se dissimuler ses propres défauts, au moral comme au physique. Ce travers est essentiellement contraire à la charité, car la vraie charité est modeste, simple et indulgente. La charité orgueilleuse est un non-sens puisque ces deux sentiments se neutralisent l'un l'autre. Comment, en effet, un homme assez vain pour croire à l'importance de sa personnalité et à la suprématie de ses qualités peut-il avoir en même temps assez d'abnégation pour faire ressortir dans autrui le bien qui pourrait l'éclipser au lieu du mal qui pourrait le rehausser? Si l'orgueil est le père de beaucoup de vices, il est aussi la négation de beaucoup de vertus. On le retrouve au fond et comme mobile de presque toutes les actions. C'est pourquoi Jésus s'est attaché à le combattre comme le principal obstacle au progrès. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car vous serez jugés selon que vous aurez jugé les autres, et on se servira envers vous de la même mesure dont vous vous serez servis envers eux. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 1-2. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qui avait été surprise en adultère, et la faisaient tenir debout au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme vient d'être surprise en adultère. Or, Moïse nous ordonne dans la loi de lapider les adultères. Quel est donc sur cela votre sentiment? » Il disait ceci en le tentant, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, écrivit avec son doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Puis, se baissant de nouveau, il continua à écrire sur la terre. Mais pour eux, l'ayant entendu parler de la sorte, ils se retirèrent l'un après l'autre, les vieillards sortant les premiers, et ainsi Jésus demeura seul avec la femme, qui était au milieu de la place. Alors Jésus, se relevant, lui dit, « Femme, où sont vos accusateurs? Personne ne vous a-t-il condamné? » Elle lui dit, « Non, Seigneur. » Jésus lui répondit, « Je ne vous condamnerai pas non plus. Allez-vous-en et à l'avenir ne péchez plus. » Saint Jean, chapitre 8, versets de 3 à 11. « Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre, » dit Jésus. Cette maxime nous fait un devoir de l'indulgence parce qu'il n'est personne qui n'en ait besoin pour son propre compte. Elle nous apprend que nous ne devons pas juger les autres plus sévèrement que nous ne nous jugeons nous-mêmes, ni condamner en autrui ce que nous excusons en nous. Avant de reprocher une faute à quelqu'un, voyez si le même blâme ne peut retomber sur nous. Le blâme jeté sur la conduite d'autrui peut avoir deux mobiles, réprimer le mal ou discréditer la personne dont on critique les actes. Ce dernier motif n'a jamais d'excuse, car c'est de la médisance et de la méchanceté. Le premier peut être louable et devient même un devoir dans certains cas, puisqu'il doit en résulter un bien, et que sans cela, le mal ne serait jamais réprimé dans la société. L'homme, d'ailleurs, ne doit-il pas aider au progrès de son semblable? Il ne faudrait donc pas prendre, dans le sens absolu, ce principe. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Jésus ne pouvait défendre de blâmer ce qui est mal, puisque lui-même nous a donné l'exemple, et l'a fait en termes énergiques. Mais il a voulu dire que l'autorité du blâme est en raison de l'autorité morale de celui qui le prononce. Se rendre coupable de ce que l'on condamne en autrui, c'est abdiquer cette autorité. C'est de plus enlever le droit de répression. La conscience intime, du reste, refuse tout respect et toute soumission volontaire à celui qui, étant investi d'un pouvoir quelconque, viole les lois et les principes qu'il est chargé d'appliquer. Il n'y a d'autorité légitime aux yeux de Dieu que celle qui s'appuie sur l'exemple qu'elle donne du bien. C'est ce qui ressort également des paroles de Jésus. Instruction des esprits, pardon des offenses. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Vous lui pardonnerez non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Voilà une de ces paroles de Jésus qui doit frapper le plus votre intelligence et parler le plus haut à votre cœur. Rapprochez ces paroles de miséricorde de l'oraison si simple, si résumée et si grande dans ses aspirations que Jésus donne à ses disciples, et vous trouverez toujours la même pensée. Jésus, le juste par excellence, répond à Pierre, « Tu pardonneras, mais sans limite. Tu pardonneras chaque offense aussi souvent que l'offense te sera faite. Tu enseigneras à tes frères cet oubli de soi-même qui rend invulnérable contre l'attaque, les mauvais procédés et les injures. Tu seras doux et humble de cœur, ne mesurant jamais ta mansuétude. Tu feras enfin ce que tu désires que le Père céleste fasse pour toi. N'a-t-il pas à te pardonner souvent et compte-t-il le nombre de fois que son pardon descend effacer tes fautes? Écoutez donc cette réponse de Jésus et, comme Pierre, appliquez-la à vous-même. Pardonnez, usez d'indulgence, soyez charitable, généreux, prodigue même de votre amour. Donnez car le Seigneur vous rendra. Pardonnez car le Seigneur vous pardonnera. Abaissez-vous car le Seigneur vous relèvera. Humiliez-vous car le Seigneur vous fera asseoir à sa droite. Allez, mes bien-aimés, étudiez et commentez ces paroles que je vous adresse de la part de celui qui, du haut des splendeurs célestes, regarde toujours vers vous, et continue avec amour la tâche ingrate qu'il a commencée il y a 18 siècles. Pardonnez donc à vos frères comme vous avez besoin qu'on vous pardonne à vous-même. Si leurs actes vous ont été personnellement préjudiciables, c'est un motif de plus pour être indulgent, car le mérite du pardon est proportionné à la gravité du mal. Il n'y aura aucun à penser sur les torts de vos frères, s'ils ne vous avaient fait que des blessures légères. Spirit, n'oubliez jamais qu'en parole, comme en action, le pardon des injures ne doit pas être un vain mot. Si vous vous dites Spirit, soyez-le donc. Oubliez le mal qu'on a pu vous faire et ne pensez qu'à une chose, le bien que vous pouvez rendre. Celui qui est entré dans cette voie ne s'en doit point écarter même par la pensée, car vous êtes responsable de vos pensées que Dieu connaît. Faites donc qu'elles soient dépouillées de tout sentiment de rancune. Dieu sait ce qui demeure au fond du cœur de chacun. Heureux donc celui qui peut chaque soir s'endormir en disant « Je n'ai rien contre mon prochain. » Siméon, Bordeaux, 1862. Pardonner à ses ennemis, c'est demander pardon pour soi-même. Pardonner à ses amis, c'est leur donner une preuve d'amitié. Pardonner les offenses, c'est montrer qu'on devient meilleur. Pardonnez donc, mes amis, afin que Dieu vous pardonne. Car si vous êtes dur, exigeant, inflexible, si vous tenez rigueur même pour une légère offense, comment voulez-vous que Dieu oublie que chaque jour vous avez le plus grand besoin d'indulgence? Oh, malheur à celui qui dit « Je ne pardonnerai jamais », car il prononce sa propre condamnation. Qui sait d'ailleurs si, en descendant en vous-même, vous n'avez pas été l'agresseur? Qui sait si, dans cette lutte qui commence par un coup d'épingle, et finit par une rupture, vous n'avez pas commencé à porter le premier coup? Si une parole blessante ne vous est pas échappée? Si vous avez usé de toute la modération nécessaire? Sans doute, votre adversaire a tort de se montrer trop susceptible, mais c'est une raison pour vous d'être indulgent et de ne pas mériter le reproche que vous lui adressez. Admettons que vous ayez été réellement l'offensé dans une circonstance. Qui dit que vous n'avez pas envenimé la chose par des représailles et que vous n'avez pas fait dégénérer en querelle sérieuse ce qui aurait pu facilement tomber dans l'oubli? S'il dépendait de vous d'en empêcher les suites, et si vous ne l'avez pas fait, vous êtes coupable. Admettons, enfin, que vous n'ayez absolument aucun reproche à vous faire, vous n'en aurez que plus de mérite à vous montrer clément. Mais il y a deux manières bien différentes de pardonner. Il y a le pardon des lèvres et le pardon du cœur. Bien des gens disent de leur adversaire « Je lui pardonne », tandis qu'intérieurement, ils éprouvent un secret plaisir du mal qui lui arrive, disant en eux-mêmes qu'il n'a que ce qu'il mérite. Combien disent « Je pardonne » et qui ajoutent « Mais je ne me réconcilierai jamais. Je ne le reverrai de ma vie. » Est-ce là le pardon selon l'Évangile? Non. Le véritable pardon, le pardon chrétien, est celui qui jette un voile sur le passé. C'est le seul dont il vous sera tenu compte, car Dieu ne se contente pas de l'apparence, il sonde le fond des cœurs et les plus secrètes pensées. On ne lui en impose pas par des paroles et de vains simulacres. L'oubli complet et absolu des offenses est le propre des grandes âmes. La rancune est toujours un signe d'abaissement et d'infériorité. N'oubliez pas que le vrai pardon se reconnaît aux actes bien plus qu'aux paroles. Paul, apôtre, Lyon, 1861. L'indulgence. Spirit, nous voulons vous parler aujourd'hui de l'indulgence, ce sentiment si doux, si fraternel que tout homme doit avoir pour ses frères, mais dont bien peu font usage. L'indulgence ne voit point les défauts d'autrui, ou, si elle les voit, elle se garde d'en parler, de les colporter, elle les cache au contraire afin qu'ils ne soient connus que d'elle seule. Et si la malveillance les découvre, elle a toujours une excuse prête pour les pallier, c'est-à-dire une excuse plausible, sérieuse et rien de celles qui, ayant l'air d'atténuer la faute, la font ressortir avec une perfide adresse. L'indulgence ne s'occupe jamais des actes mauvais d'autrui, à moins que ce ne soit pour rendre un service, encore a-t-elle soin de les atténuer autant que possible. Elle ne fait point d'observations choquantes, n'a point de reproches aux lèvres, mais seulement des conseils, le plus souvent voilés. Quand vous jetez la critique, quelles conséquences doit-on tirer de vos paroles? C'est que vous, qui blâmez, n'auriez pas fait ce que vous reprochez? C'est que vous valez mieux que le coupable? Ô homme, quand donc jugerez-vous vos propres cœurs, vos propres pensées, vos propres actes, sans vous occuper de ce que font vos frères? Quand n'ouvrirez-vous vos yeux sévères que sur vous-même? Soyez donc sévères envers vous, indulgents envers les autres. Songez à celui qui juge en dernier ressort, qui voit les secrets de pensée de chaque cœur et qui, par conséquent, excuse souvent les fautes que vous blâmez ou condamne ce que vous excusez. Parce qu'il connaît le mobile de tous les actes et que vous, qui criez si haut, anathème, auriez peut-être commis des fautes plus graves. Soyez indulgents, mes amis, car l'indulgence attire, calme, redresse, tandis que la rigueur décourage, éloigne et irrite. Joseph, Esprit protecteur, Bordeaux, 1863. Soyez indulgents pour les fautes d'autrui, quelles qu'elles soient. Ne jugez avec sévérité que vos propres actions. Et le Seigneur usera d'indulgence envers vous, comme vous en aurez usé envers les autres. Soutenez les forts, encouragez-les à la persévérance, fortifiez les faibles en leur montrant la bonté de Dieu, qui compte le moindre repentir. Montrez à tous l'ange de la repentance étendant son aile blanche sur les fautes des humains, et les voilant ainsi aux yeux de celui qui ne peut voir ce qui est impur. Comprenez tout la miséricorde infinie de votre Père, et n'oubliez jamais de lui dire par votre pensée et surtout par vos actes, « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Comprenez bien la valeur de ces sublimes paroles. La lettre n'en est pas une seule admirable, mais aussi l'enseignement qu'elle renferme. Que demandez-vous au Seigneur en lui demandant votre pardon? Est-ce seulement l'oubli de vos offenses? Oubli qui vous laisse dans le néant, car si Dieu se contente d'oublier vos fautes, il ne punit pas, mais non plus il ne récompense pas. La récompense ne peut être le prix du bien que l'on n'a pas fait, et encore moins du mal que l'on a fait. Ce mal fut-il oublié? En lui demandant pardon de vos transgressions, vous lui demandez la faveur de ses grâces pour n'y plus retomber, la force nécessaire pour entrer dans une voie nouvelle, voie de soumission et d'amour, dans laquelle vous pourrez ajouter la réparation au repentir. Quand vous pardonnez à vos frères, ne vous contentez pas d'étendre le voile de l'oubli sur leurs fautes. Ce voile est souvent bien transparent à vos yeux. Apportez-leur l'amour en même temps que le pardon. Faites pour eux ce que vous demanderez à votre Père céleste de faire pour vous. Remplacez la colère qui souille par l'amour qui purifie. Prêchez d'exemple cette charité active, infatigable, que Jésus vous a enseignée. Prêchez-la comme il le fit lui-même tout le temps qu'il vécut sur la terre, visible aux yeux du corps, et comme il la prêche encore sans cesse depuis qu'il n'est plus visible qu'aux yeux de l'esprit. Suivez ce divin modèle, marchez sur ses traces, elles vous conduiront au lieu de refuge où vous trouverez le repos après la lutte. Comme lui, chargez-vous tous de votre croix, et gravissez péniblement mais courageusement votre calvaire, au sommet est la glorification. Jean, évêque de Bordeaux, 1862. Chers amis, soyez sévères pour vous-même, indulgents pour les faiblesses des autres. C'est encore une pratique de la sainte charité que bien peu de personnes observent. Tous, vous avez de mauvais penchants à vaincre, des défauts à corriger, des habitudes à modifier. Tous, vous avez un fardeau plus ou moins lourd à déposer pour gravir le sommet de la montagne du progrès. Pourquoi donc être si clairvoyant pour le prochain et si aveugle pour vous-même? Quand donc cesserez-vous d'apercevoir dans l'œil de votre frère le fétu de paille qui le blesse, sans regarder dans le vôtre la poutre qui vous aveugle et vous fait marcher de chute en chute? Croyez en vos frères les esprits. Tout homme assez orgueilleux pour se croire supérieur en vertu et en mérite à ses frères incarnés est insensé et coupable, et Dieu le châtiera au jour de sa justice. Le véritable caractère de la charité est la modestie et l'humilité, qui consiste à ne voir que superficiellement les défauts d'autrui, pour s'attacher à faire valoir ce qu'il y a en lui de bon et de vertueux. Car si le cœur humain est un abîme de corruption, il existe toujours, dans quelques-uns de ses replis les plus cachés, le germe de quelques bons sentiments, étincelle vivace de l'essence spirituelle. Spiritisme, doctrine consolante et bénie, heureux ceux qui te connaissent et qui mettent à profit les salutaires enseignements des esprits du Seigneur. Pour eux, la voie est éclairée, et tout le long de la route, ils peuvent lire ces mots qui leur indiquent le moyen d'arriver au but. Charité pratique, charité de cœur, charité pour le prochain comme pour soi-même. En un mot, charité pour tous et amour de Dieu par-dessus toute chose. Parce que l'amour de Dieu résume tous les devoirs et qu'il est impossible d'aimer réellement Dieu sans pratiquer la charité dont il fait une loi à toutes ses créatures. Dufaitre, évêque de Nevers, Bordeaux. Personne n'étant parfait, s'ensuit-il que personne n'a le droit de reprendre son voisin? Assurément non, puisque chacun de vous doit travailler au progrès de tous, et surtout de ceux dont la tutelle vous est confiée. Mais c'est une raison de le faire avec modération, dans un but utile, et non comme on le fait la plupart du temps, pour le plaisir de dénigrer. Dans ce dernier cas, le blâme est une méchanceté. Dans le premier, c'est un devoir que la charité commande d'accomplir avec tous les ménagements possibles. Et encore le blâme qu'on jette sur autrui, doit-on en même temps se l'adresser à soi-même et se demander si on ne le mérite pas? Saint-Louis, Paris, 1860. Est-on répréhensible d'observer les imperfections des autres lorsqu'il n'en peut résulter aucun profit pour eux et alors qu'on ne les divulgue pas? Tout dépend de l'intention. Certainement, il n'est pas défendu de voir le mal quand le mal existe. Il y aurait même de l'inconvénient à ne voir partout que le bien. Cette illusion nuirait au progrès. Le tort est de faire tourner cette observation au détriment du prochain, en le décriant sans nécessité dans l'opinion. On serait encore répréhensible de ne le faire que pour s'y complaire soi-même avec un sentiment de malveillance et de joie, de trouver les autres en défaut. Il en est tout autrement lorsque, jetant un voile sur le mal pour le public, on se borne à l'observer pour en faire son profit personnel, c'est-à-dire pour s'étudier à éviter ce qu'on blâme dans les autres. Cette observation, d'ailleurs, n'est pas utile aux moralistes. Comment peindrait-il les travers de l'humanité s'il n'étudiait pas les modèles? Saint-Louis, Paris, 1860. Est-il des cas où il soit utile de dévoiler le mal en autrui? Cette question est très délicate, et c'est ici qu'il faut faire appel à la charité bien comprise. Si les imperfections d'une personne ne nuisent qu'à elle-même, il n'y a jamais utilité à les faire connaître. Mais si elles peuvent porter préjudice à d'autres, il faut préférer l'intérêt du plus grand nombre à l'intérêt d'un seul. Suivant les circonstances, démasquer l'hypocrisie et le mensonge peut être un devoir. Car il faut mieux qu'un homme tombe que si plusieurs deviennent ses dupes ou ses victimes. En pareil cas, il faut peser la somme des avantages et des inconvénients. Saint-Louis, Paris, 1860.
Terminons notre lecture du jour par le chapitre 11 de l'Évangile selon le spiritisme. Aimer son prochain comme soi-même.
Chapitre 11. Aimer son prochain comme soi-même. Le plus grand commandement. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent, et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, vint lui faire cette question pour le tenter. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus leur répondit, « Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est le plus grand et le premier commandement. Et voici le second qui est semblable à celui-là. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. Toute la loi et les prophètes sont renfermés dans ces deux commandements. » Saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Faites aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils vous fassent, car c'est la loi et les prophètes. Traitez tous les hommes de la même manière que vous voudriez qu'ils vous traitassent. Saint Luc, chapitre 6, verset 31. Le royaume des cieux est comparé à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et, ayant commencé à le faire, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Mais comme il n'avait pas les moyens de les lui rendre, son maître commanda qu'on le vendît, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, pour satisfaire à cette dette. Le serviteur se jetant à ses pieds, le conjurait en lui disant, « Seigneur, ayez un peu de patience, et je vous rendrai le tout. » Alors le maître de ses serviteurs, étant touché de compassion, le laissa aller et lui remit sa dette. Mais ce serviteur ne fut pas plus tôt sorti que trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le prit à la gorge et l'étouffait presque en lui disant, « Rends-moi ce que tu me dois. » Et son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait en lui disant, « Ayez un peu de patience et je vous rendrai le tout. » Mais il ne voulut pas l'écouter et il s'en alla, et il le fit mettre en prison pour l'y tenir jusqu'à ce qu'il lui rendût ce qu'il lui devait. Les autres serviteurs, ses compagnons, voyant ce qui se passait, en furent extrêmement affligés, et avertirent leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors le maître, l'ayant fait venir, lui dit, « Méchant serviteur, je vous avais remis tout ce que vous me deviez parce que vous m'en aviez prié. Ne fallait-il donc pas que vous eussiez aussi pitié de votre compagnon, comme j'avais eu pitié de vous ?» Et son maître, étant ému de colère, le livra entre les mains des bourreaux, jusqu'à ce qu'il payât tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père, qui est dans le ciel, vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne du fond de son cœur à son frère les fautes qu'il aura commises contre lui. Saint Matthieu, chapitre 18, versets de 23 à 35. Aimez son prochain comme soi-même. Faire pour les autres ce que nous voudrions que les autres fissent pour nous est l'expression la plus complète de la charité, car elle résume tous les devoirs envers le prochain. On ne peut avoir de guide plus sûr à cet égard qu'en prenant pour mesure de ce que l'on doit faire aux autres ce que l'on désire pour soi. De quel droit exigerait-on de ses semblables plus de bons procédés, d'indulgence, de bienveillance et de dévouement que l'on en a soi-même pour eux? La pratique de ces maximes tend à la destruction de l'égoïsme. Quand les hommes les prendront pour règle de leur conduite et pour base de leur institution, ils comprendront la véritable fraternité et feront régner entre eux la paix et la justice. Il n'y aura plus ni haine ni dissension, mais union, concorde et bienveillance mutuelle. Rendez à César ce qui est à César. Alors les pharisiens, s'étant retirés, firent dessein entre eux de le surprendre dans ses paroles. Ils lui envoyèrent donc leurs disciples, avec les Hérodiens, lui dire, « Maître, nous savons que vous êtes véritable, et que vous enseignez la voie du Dieu dans la vérité, sans avoir égard à qui que ce soit, parce que vous ne considérez point la personne dans les hommes. Dites-nous donc votre avis sur ceci. Nous est-il libre de payer le tribut à César ou de ne pas le payer? » Mais Jésus, connaissant leur malice, leur dit, « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi la pièce d'argent qu'on donne pour le tribut. » Et eux, lui ayant présenté un denier, Jésus leur dit, « De qui est cette image et cette inscription? » « De César, lui dirent-ils. » Alors Jésus leur répondit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » L'ayant entendu parler de la sorte, ils admirèrent sa réponse, et le laissant, ils se retirèrent. Saint Matthieu, chapitre 22, versets de 15 à 22. Saint Marc, chapitre 17, versets de 13 à 17. La question posée à Jésus était motivée par cette circonstance que les Juifs, ayant en horreur le tribut qui leur était imposé par les Romains, en avaient fait une question religieuse. Un parti nombreux s'était formé pour refuser l'impôt. Le paiement d'une tribu était donc pour eux une question irritante d'actualité. Sans cela, la demande faite à Jésus, « Nous est-il libre de payer ou de ne pas payer le tribut à César ?» n'aurait eu aucun sens. Cette question était un piège, car, suivant sa réponse, il espérait exciter contre lui soit l'autorité romaine, soit les Juifs dissidents. Mais Jésus connaissant leur malice, il eut de la difficulté en leur donnant une leçon de justice et en disant de rendre à chacun ce qui lui est dû. Cette maxime, « Rendez à César ce qui est à César », ne doit point s'entendre d'une manière restrictive et absolue. Comme tous les enseignements de Jésus, c'est un principe général, résumé sous une forme pratique et usuelle, et déduit d'une circonstance particulière. Ce principe est une conséquence de celui qui dit d'agir envers les autres, comme nous voudrions que les autres agissent envers nous. Il condamne tout préjudice matériel et moral porté à autrui, toute violation de ses intérêts. Il prescrit le respect des droits de chacun, comme chacun désire qu'on respecte les siens. Il s'étend à l'accomplissement des devoirs contractés envers la famille, la société, l'autorité, aussi bien qu'envers les individus. Instruction des esprits, la loi d'amour. L'amour résume la doctrine de Jésus tout entière, car c'est le sentiment par excellence, et les sentiments sont les instincts élevés à la hauteur du progrès accompli. À son point de départ, l'homme n'a que des instincts. Plus avancé et corrompu, il n'a que des sensations. Mais instruit et purifié, il a des sentiments. Et le point exquis du sentiment, c'est l'amour. Non l'amour dans le sens vulgaire du mot, mais ce soleil intérieur qui condense et réunit dans son ardent foyer toutes les aspirations et toutes les révélations surhumaines. La loi d'amour remplace la personnalité par la fusion des êtres. Elle anéantit les misères sociales. Heureux celui qui, dépassant son humanité, aime d'un large amour ses frères en douleur. Heureux celui qui aime, car il ne connaît ni la détresse de l'âme, ni celle du corps. Ses pieds sont légers, et il vit comme transporté hors de lui-même. Lorsque Jésus eut prononcé ce mot divin d'amour, ce mot fit tressaillir les peuples et les martyrs, ivres d'espérance, descendirent dans le cirque. Le spiritisme, à son tour, vient prononcer un second mot de l'alphabet divin. Soyez attentifs, car ce mot soulève la pierre des tombeaux vides et la réincarnation. Triomphant de la mort, révèle à l'homme ébloui son patrimoine intellectuel. Ce n'est plus au supplice qu'elle le conduit, mais à la conquête de son être élevé et transfiguré. Le sang a racheté l'esprit, et l'esprit doit aujourd'hui racheter l'homme de la matière. J'ai dit qu'à son début, l'homme n'a que des instincts. Celui donc en qui les instincts dominent est plus près du point de départ que du but. Pour avancer vers le but, il faut vaincre les instincts au profit des sentiments, c'est-à-dire perfectionner ceux-ci en étouffant les germes latents de la matière. Les instincts sont la germination et les embryons du sentiment. Ils portent avec eux le progrès, comme le gland recèle le chêne. Et les êtres les moins avancés sont ceux qui, ne dépouillant que peu à peu leur chrysalide, demeurent asservis à leur instinct. L'esprit doit être cultivé comme un champ. Toute la richesse future dépend du labour présent, et plus que des biens terrestres. Il vous apportera la glorieuse élévation. C'est alors que, comprenant la loi d'amour qui unit tous les êtres, vous y chercherez les suaves jouissances de l'âme qui sont les préludes des joies célestes. Lazare, Paris, 1862. L'amour est d'essence divine, et depuis le premier jusqu'au dernier, vous possédez au fond du cœur l'étincelle de ce feu sacré. C'est un fait que vous avez pu constater bien des fois. L'homme le plus abject, le plus vil, le plus criminel, a pour un être ou pour un objet quelconque une affection vive et ardente, à l'épreuve de tout ce qui tendrait à le diminuer, et atteignant souvent des proportions sublimes. J'ai dit pour un être ou un objet quelconque, parce qu'il existe parmi vous des individus qui dépensent des trésors d'amour dont leur cœur surabonde, sur des animaux, sur des plantes et même sur des objets matériels. Espèce de misanthrope se plaignant de l'humanité en général, se roidissant contre la pente naturelle de leur âme qui cherche autour d'elle l'affection et la sympathie. Ils rabaissent la loi d'amour à l'état d'instinct. Mais quoi qu'ils fassent, ils ne sauraient étouffer le germe vivace que Dieu a déposé dans leur cœur à leur création. Ce germe se développe et grandit avec la moralité et l'intelligence, et quoique souvent comprimé par l'égoïsme, il est la source des saintes et douces vertus qui font les affections sincères et durables, et vous aident à franchir la route escarpée et aride de l'existence humaine. Il est quelques personnes à qui l'épreuve de la réincarnation répugne, en ce sens que d'autres participent aux sympathies affectueuses dont ils sont jaloux. Pauvres frères, c'est votre affection qui vous rend égoïste, votre amour restreint à un cercle intime de parents ou d'amis, et tous les autres vous sont indifférents. Eh bien, pour pratiquer la loi d'amour telle que Dieu l'entend, il faut que vous arriviez par degrés à aimer tous vos frères indistinctement. La tâche sera longue et difficile, mais elle s'accomplira. Dieu le veut, et la loi d'amour est le premier et le plus important précepte de votre nouvelle doctrine. Parce que c'est celle-là qui doit un jour tuer l'égoïsme, sous quelque forme qu'il se présente, car outre l'égoïsme personnel, il y a encore l'égoïsme de famille, de caste, de nationalité. Jésus a dit « Aimez votre prochain comme vous-même ». Or, quelle est la limite du prochain? Est-ce la famille, la secte, la nation? Non, c'est l'humanité tout entière. Dans les mondes supérieurs, c'est l'amour mutuel qui harmonise et dirige les esprits avancés qui les habitent, et votre planète destinée à un progrès prochain, par sa transformation sociale, verra pratiquer par ses habitants cette sublime loi, reflet de la divinité. Les effets de la loi d'amour sont l'amélioration morale de la race humaine et le bonheur pendant la vie terrestre. Les plus rebelles et les plus vicieux devront se reformer quand ils verront les bienfaits produits par cette pratique. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fût fait, mais faites-leur au contraire tout le bien qu'il est en votre pouvoir de leur faire. Ne croyez pas à la stérilité et à l'endurcissement du cœur humain. Il cède malgré lui à l'amour vrai. C'est un aimant auquel il ne peut résister, et le contact de cet amour vivifie et féconde les germes de cette vertu qui est dans vos cœurs à l'état latent. La terre, séjour d'épreuves et d'exil, sera alors purifiée par ce feu sacré et verra pratiquer la charité, l'humilité, la patience, le dévouement, l'abnégation, la résignation, le sacrifice, toute vertu fille de l'amour. Ne vous lassez donc pas d'entendre les paroles de Jean l'Évangéliste. Vous le savez, quand l'infirmité et la vieillesse suspendirent le cours de ses prédications, il ne répétait que ces douces paroles. « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Chers frères aimés, mettez à profit ces leçons. La pratique en est difficile, mais l'âme en retire un bien immense. Croyez-moi, faites le sublime effort que je vous demande. Aimez-vous. Vous verrez bientôt la terre transformée et devenir l'Élysée, où les âmes des justes viendront goûter le repos. Fénelon, Bordeaux, 1861. Mes chers condisciples, les esprits ici présents vous disent par ma voix « Aimez bien, afin d'être aimé. » Cette pensée est si juste que vous trouverez en elle tout ce qui console et calme les peines de chaque jour. Ou plutôt, en pratiquant cette sage maxime, vous vous élèverez tellement au-dessus de la matière que vous vous spiritualiserez avant votre dépouillement terrestre. Les études spirites ayant développé chez vous la compréhension de l'avenir, vous avez une certitude, l'avancement vers Dieu avec toutes les promesses qui répondent aux aspirations de votre âme. Aussi devez-vous vous élever assez haut pour juger sans les étreintes de la matière et ne pas condamner votre prochain avant d'avoir reporté votre pensée vers Dieu. Aimer, dans le sens profond du mot, c'est être loyal, probe, consciencieux pour faire aux autres ce que l'on voudrait pour soi-même. C'est chercher autour de soi le sens intime de toutes les douleurs qui accablent vos frères pour y apporter un adoucissement. C'est regarder la grande famille humaine comme la sienne, car cette famille, vous la retrouverez dans une certaine période, en des mondes plus avancés, et les esprits qui la composent sont, comme vous, enfants de Dieu, marqués au front pour s'élever vers l'infini. C'est pour cela que vous ne pouvez refuser à vos frères ce que Dieu vous a libéralement donné, parce que, de votre côté, vous seriez bien aise que vos frères vous donnassent ce dont vous auriez besoin. À toutes les souffrances, donnez donc une parole d'espérance et d'appui, afin que vous soyez tout amour, toute justice. Croyez que cette sage parole, « Aimez bien pour être aimé », fera son chemin. Elle est révolutionnaire et suit la route qui est fixe, invariable. Mais vous avez déjà gagné, vous qui m'écoutez, vous êtes infiniment meilleur qu'il y a 100 ans. Vous avez tellement changé à votre avantage que vous acceptez sans conteste une foule d'idées nouvelles sur la liberté et la fraternité que vous eussiez rejetées jadis. Or, dans 100 ans d'ici, vous accepterez avec la même facilité celles qui n'ont pu encore entrer dans votre cerveau. Aujourd'hui que le mouvement spirit a fait un grand pas, voyez avec quelle rapidité les idées de justice et de rénovation renfermées dans les dictées des esprits sont acceptées par la moyenne partie du monde intelligent. C'est que ces idées répondent à tout ce qu'il y a de divin en vous. C'est que vous êtes préparés par une semence féconde, celle du siècle dernier qui a implanté dans la société les grandes idées de progrès. Et comme tout s'enchaîne sous le doigt du Très-Haut, toutes les leçons reçues et acceptées seront renfermés dans cet échange universel de l'amour du prochain. Par lui, les esprits incarnés, jugeant mieux, sentant mieux, se tendront la main des confins de votre planète. On se réunira pour s'entendre et s'aimer, pour détruire toutes les injustices, toutes les causes de mésintelligence entre les peuples. Grande pensée de rénovation par le spiritisme, si bien décrite dans le livre des esprits. Tu produiras le grand miracle du siècle à venir, celui de la réunion de tous les intérêts matériels et spirituels des hommes, par l'application de cette maxime bien comprise, « Aimez bien afin d'être aimé ». Samson, ancien membre de la Société Spirit de Paris, 1863. L'égoïsme. L'égoïsme, cette plaie de l'humanité, doit disparaître de la terre, dont il arrête le progrès moral. C'est au spiritisme qu'est réservée la tâche de la faire monter dans la hiérarchie des mondes. L'égoïsme est donc le but vers lequel tous les vrais croyants doivent diriger leur arme, leur force, leur courage. Je dis leur courage car il en faut plus pour se vaincre soi-même que pour vaincre les autres. Que chacun mette donc tous ses soins à le combattre en soi, car ce monstre dévorant de toutes les intelligences, cet enfant de l'orgueil, est la source de toutes les misères d'ici-bas. Il est la négation de la charité et par conséquent le plus grand obstacle au bonheur des hommes. Jésus vous a donné l'exemple de la charité et Ponce Pilate de l'égoïsme, car lorsque le juste va parcourir les saintes stations de son martyre, Pilate se lave les mains en disant « Que m'importe ?» Il dit aux Juifs « Cet homme est juste, pourquoi voulez-vous le crucifier ?» Et cependant, il le laisse conduire au supplice. C'est à cet antagonisme de la charité et de l'égoïsme, c'est à l'envahissement de cette lèpre du cœur humain que le christianisme doit de n'avoir pas encore accompli toute sa mission. C'est à vous, apôtres nouveaux de la foi, et que les esprits supérieurs éclairent, qu'incombe la tâche et le devoir d'extirper ce mal pour donner au christianisme toute sa force et déblayer la route des ronces qui entravent sa marche. Chassez l'égoïsme de la terre pour qu'elle puisse graviter dans l'échelle des mondes, car il est temps que l'humanité revête sa robe virile, et pour cela il faut d'abord le chasser de votre cœur. Emmanuel, Paris, 1861. Si les hommes s'aimaient d'un commun amour, la charité serait mieux pratiquée. Mais il faudrait pour cela que vous vous efforçassiez de vous débarrasser de cette cuirasse qui couvre vos cœurs, afin d'être plus sensible envers ceux qui souffrent. La rigidité tue les bons sentiments. Le Christ ne se rebutait pas. Celui qui s'adressait à lui, quel qu'il fût, n'était pas repoussé. La femme adultère, le criminel étant secouru par lui, Il ne craignait jamais que sa propre considération eût à n'en souffrir. Quand donc le prendrez-vous pour modèle de toutes vos actions? Si la charité régnait sur la terre, le méchant n'aurait plus d'empire. Il fuirait honteux, il se cacherait, car il se trouverait déplacé partout. C'est alors que le mal disparaîtrait. Soyez bien pénétrés de ceci. Commencez par donner l'exemple vous-même. Soyez charitables envers tous indistinctement. Efforcez-vous de ne plus remarquer ceux qui vous regardent avec dédain, et laissez à Dieu le soin de toute justice, car chaque jour, dans son royaume, il sépare le bon grain de l'ivraie. L'égoïsme est la négation de la charité. Or, sans la charité, point de repos dans la société. Je dis plus, point de sécurité. Avec l'égoïsme et l'orgueil qui se donnent la main, ce sera toujours une course au plus adroit, une lutte d'intérêts où sont foulés aux pieds les plus saintes affections, où les liens sacrés de la famille ne sont pas même respectés. Pascal, Sens, 1862. La foi et la charité. Je vous ai dit dernièrement, mes chers enfants, que la charité sans la foi ne suffisait point pour maintenir parmi les hommes un ordre social capable de les rendre heureux. J'aurais dû dire que la charité est impossible sans la foi. Vous pourrez bien trouver, à la vérité, des élans généreux même chez les personnes privées de religion, mais cette charité austère qui ne s'exerce que par l'abnégation, par le sacrifice constant de tout intérêt égoïste, il n'y a que la foi qui puisse l'inspirer. Car il n'y a qu'elle qui nous fasse porter avec courage et persévérance la croix de cette vie. Oui, mes enfants, c'est en vain que l'homme avide de jouissance voudrait se faire illusion sur sa destinée ici-bas, en soutenant qu'il lui est permis de ne s'occuper que de son bonheur. Certes, Dieu nous créa pour être heureux dans l'éternité. Cependant, la vie terrestre doit uniquement servir à notre perfectionnement moral, lequel s'acquiert plus facilement avec l'aide des organes et du monde matériel. Sans compter les vicissitudes ordinaires de la vie, la diversité de vos goûts, de vos penchants, de vos besoins est aussi un moyen de vous perfectionner en vous exerçant dans la charité. Car ce n'est qu'à force de concessions et de sacrifices mutuels que vous pouvez maintenir l'harmonie entre des éléments aussi divers. Vous aurez cependant raison en affirmant que le bonheur est destiné à l'homme ici-bas. Si vous le cherchez, non dans les jouissances matérielles, mais dans le bien, l'histoire de la chrétienté parle de martyrs qui allaient un supplice avec joie. Aujourd'hui et dans votre société, il ne faut pour être chrétien ni l'holocauste du martyr, ni le sacrifice de la vie, mais uniquement et simplement le sacrifice de votre égoïsme, de votre orgueil et de votre vanité. Vous triompherez si la charité vous inspire et si la foi vous soutient. Un esprit protecteur, Cracovie, 1861. Charité envers les criminels. La vraie charité est un des plus sublimes enseignements que Dieu ait donné au monde. Il doit exister entre les véritables disciples de sa doctrine une fraternité complète. Vous devez aimer les malheureux, les criminels, comme des créatures de Dieu, auxquels le pardon et la miséricorde seront accordés s'ils se repentent, comme à vous-même, pour les fautes que vous commettez contre sa loi. Songez que vous êtes plus répréhensibles, plus coupables que ceux auxquels vous refusez le pardon et la commisération, car souvent ils ne connaissent pas Dieu comme vous le connaissez, et il leur sera moins demandé qu'à vous. Ne jugez point, oh, ne jugez point, mes chers amis, car le jugement que vous portez vous sera appliqué plus sévèrement encore, et vous avez besoin d'indulgence pour les péchés que vous commettez sans cesse. Ne savez-vous pas qu'il y a bien des actions qui sont des crimes aux yeux de Dieu de pureté? et que le monde ne considère pas même comme des fautes légères. La vraie charité ne consiste pas seulement dans l'aumône que vous donnez, ni même dans les paroles de consolation dont vous pouvez l'accompagner. Non, ce n'est pas seulement ce que Dieu exige de vous. La charité sublime, enseignée par Jésus, consiste aussi dans la bienveillance accordée toujours et en toutes choses à votre prochain. Vous pouvez encore exercer cette sublime vertu sur bien des êtres qui n'ont que faire d'aumône et que des paroles d'amour, de consolation, d'encouragement amèneront au Seigneur. Les temps sont proches, je le dis encore, où la grande fraternité règnera sur ce globe. La loi du Christ est celle qui régira les hommes. Celle-là seule sera le frein et l'espérance, et conduira les âmes au séjour bienheureux. Aimez-vous donc comme les enfants d'un même Père, ne faites point de différence entre les autres malheureux, car c'est Dieu qui veut que tout soit égaux. Ne méprisez donc personne. Dieu permet que de grands criminels soient parmi vous, afin qu'ils vous servent d'enseignement. Bientôt, quand les hommes seront amenés aux vraies lois de Dieu, il n'y aura plus besoin de ces enseignements-là, et tous les esprits impurs et révoltés seront dispersés dans des mondes inférieurs en harmonie avec leurs penchants. Vous devez à ceux dont je parle le secours de vos prières. C'est la vraie charité. Il ne faut point dire d'un criminel, c'est un misérable, il faut en purger la terre, la mort qu'on lui inflige est trop douce pour un être de cette espèce. Non, ce n'est point ainsi que vous devez parler. Regardez votre modèle, Jésus. Que dirait-il s'il voyait ce malheureux près de lui? Il le plaindrait, il le considérerait comme un malade bien misérable. Il lui tendrait la main. Vous ne pouvez le faire en réalité, mais au moins vous pouvez prier pour lui. Assistez son esprit pendant les quelques instants qu'il doit encore passer sur votre terre. Le repentir peut toucher son cœur, si vous priez avec la foi. Il est votre prochain comme le meilleur d'entre les hommes. Son âme égarée et révoltée est créée comme la vôtre, pour se perfectionner. Aidez-le donc à sortir du bourbier et priez pour lui. Élisabeth de France, Le Havre, 1862. Un homme est en danger de mort, pour le sauver, il faut exposer sa vie. Mais on sait que cet homme est un malfaiteur et que, s'il en réchappe, il pourra commettre de nouveaux crimes. Doit-on, malgré cela, s'exposer pour le sauver? Ceci est une question fort grave et qui peut se présenter naturellement à l'esprit. Je répondrai selon mon avancement moral, puisque nous en sommes sur ce point. De savoir si l'on doit exposer sa vie même pour un malfaiteur. Le dévouement est aveugle. On secourt un ennemi, on doit donc secourir l'ennemi de la société. Un malfaiteur en un mot. Croyez-vous que ce soit seulement à la mort que l'on court arracher ce malheureux? C'est peut-être à sa vie passée tout entière, car songez-y, dans ces rapides instants qui lui ravissent les dernières minutes de la vie, l'homme perdu revient sur sa vie passée, ou plutôt elle se dresse devant lui. La mort peut-être arrive trop tôt pour lui, la réincarnation pourra être terrible. Élancez-vous donc, homme, vous que la science spirite a éclairé. Élancez-vous, arrachez-le à sa damnation, et alors, peut-être cet homme, qui serait mort en vous blasphémant, se jettera dans vos bras. Toutefois, il ne faut pas vous demander s'il le fera ou s'il ne le fera point. Mais allez à son secours, car en le sauvant, vous obéissez à cette voix du cœur qui vous dit « Tu peux le sauver, sauve-le ». Lamennais, Paris, 1862.
L'Union Spirit Belge nous rappelle que le spiritisme est une philosophie, un enseignement qui explique ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons, comment faire pour y parvenir. Il explique également l'interaction qu'il y a entre les vivants, esprits incarnés que nous sommes, et le monde spirituel, esprit désincarné. Il enseigne l'amour du prochain et l'importance de la réforme intérieure pour aboutir à un monde meilleur, et ceci en suivant un processus de réincarnation. Le spiritisme n'impose rien et laisse à chacun la liberté et la responsabilité de ses actes. Bien que reçu par l'intermédiaire de médiums en contact avec les esprits évolués, le spiritisme n'a rien à voir avec la pratique médiuménique généralement répandue et utilisée à des fins matérielles, lucratives ou similaires. Il importe dès lors de bien faire la distinction entre spiritisme et médiuménisme, confusion qui malheureusement est largement répandue. On peut très bien être spirit sans être médium et inversement. Seule la médiumnité à des fins supérieures et moralement élevées est pratiquée dans le mouvement spirit digne de ce nom, et ceci bénévolement, pour venir en aide à notre prochain ou afin d'élargir ses connaissances. Au-delà de l'aspect philosophique, la mise en pratique du spiritisme est donc le plus bel exemple qu'il a bien été compris. C'est pourquoi l'Union Spirit Belge souhaite réaliser différents projets et soutenir les associations qui, de par leur activité, viennent en aide à leurs prochains et participent ainsi à la réalisation d'un monde meilleur. C'est dans cette optique que nous faisons appel à toutes les bonnes volontés, pour soit soutenir directement nos projets, soit soutenir les projets des associations que nous parrainons. Dans la rubrique « Projets », vous trouverez tous les détails des projets en cours ou à venir de l'Union Spirit Belge, ainsi qu'un ou des liens d'associations parrainées. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Que vous soyez manuel ou intellectuel, que vous ayez une heure par semaine ou plus, que ce soit régulièrement ou occasionnellement, vous pouvez nous aider. À cette fin, vous trouverez bientôt un formulaire électronique que vous pouvez remplir. En attendant, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact que vous trouverez sur notre site à l'adresse suivante http://spirit-sans-s.be. Si par contre vous ne disposez pas de temps libre, vous pouvez toujours nous apporter votre soutien via notre compte en précisant éventuellement le ou les projets que vous voulez soutenir. Pour rappel, le numéro de compte est BE 59 1420 6284 6426, Union Spirit Belge, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre soutien. Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités organisées au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique et en France. Au Grand-Duché de Luxembourg, le groupe d'études spirit Alain Kardec de Luxembourg, le GESAC, vous invite à ses conférences dont la première aura lieu le jeudi 24 mars 2011 à 19h30 autour du thème « Constellation familiale, rénovation et progrès ». Celle-ci sera présentée par notre sœur Juselma Coelho. Adresse du jour, centre sociétaire, 29 rue de Strasbourg, au deuxième étage, à 2560 Luxembourg Gare. La seconde conférence aura pour thème central la médiumnité avec Jésus et sera présentée par notre très cher frère Divaldo Franco. Elle aura lieu le mardi 17 mai 2011 dès 19h30 au centre culturel Linsperbeck, 54 rue Herme-Sainte à 1469 Luxembourg. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact avec le GESAC en formant le 0352 55 29 46 ou le 0352 661 552 946 ou via courriel à l'adresse suivante Alan Kardec Lux en un mot @yahoo.fr. En France, nos amis de l'Association parisienne d'études spirites nous prient de vous lire le communiqué suivant. Nous sommes très heureux de vous inviter à souffler les 18 bougies de gâteau d'anniversaire de l'Association parisienne d'études spirites le samedi 26 mars 2011 à 15h au siège social de l'association. Le programme de la commémoration parle pour soi, mais ce n'est pas tout car nous avons organisé encore beaucoup d'autres surprises, dont une conférence ayant pour thème « Dialogue sur l'obsession entre esprits, les moyens de s'en libérer » selon le spiritisme. À votre tour, invitez vos amis et votre famille pour partager ensemble cet après-midi plein de joie et beaucoup de bonnes surprises. Pour plus d'informations, contactez-nous par courriel à l'adresse suivante mail@paapes.asso.fr ou par téléphone en formant depuis la France le 09 51 78 96 48. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi joindre l'association en formant le 0141 93 17 08 ou via le site internet http://www.apes.asso.fr. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirite. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirite et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirite dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirite Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirite.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirite.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.